David, toi, tu es un des monteurs de projet de l'association Recyclobat. On connaît les ressourceries qui s'intéressent aux vêtements, aux objets, qui nous proposent donc tout un tas de choses. Mais sur ce même concept, vous avez inventé une autre histoire.
C'est ça. Alors, comme tu l'as dit, c'est le concept d'une ressourcerie, donc qui va récupérer du déchet pour le remettre dans un circuit de vente, en gros, pour faire ça simple. D'habitude, comme tu dis, la ressourcerie, c'est plutôt sur du mobilier, du vêtement, des choses comme ça. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y avait rien qui existait sur le matériau du bâtiment, en fait. Donc, on a vu qu'il y avait des exemples dans d'autres pays, Belgique, Angleterre, États-Unis, où là, ça faisait déjà pas mal d'années qu'ils travaillaient là-dessus, donc à récupérer du matériau, du déchet du bâtiment, en fait, pour le retravailler comme un matériau, tout simplement. Parce qu'évidemment, dans le bâtiment, comme dans plein d'autres secteurs, il y a beaucoup, beaucoup de gâchis, beaucoup de choses qui sont jetées alors qu'elles peuvent resservir. Et voilà, voyant ces quantités passer, on s'est dit, il y a clairement quelque chose à récupérer, quelque chose à faire. Pour tous les gens qui veulent bricoler en n'achetant pas du matériau neuf, en achetant quelque chose d'un petit peu moins cher aussi. Et puis, voilà, avoir accès à une ressource un peu moins contraignante pour la planète, on va dire.
Alors, vous avez monté ce projet depuis 2015, c'est ça ?
L'origine même, l'association existe depuis 2013, en fait. Mm-hmm. Et en effet, on a une réelle activité depuis 2014. On était donc deux avec Edouard au tout début du projet. On a mis un petit peu de temps à avoir un local, parce que comme toujours, c'est un petit peu difficile d'avoir une surface suffisante, déjà pour une association, mais en plus pour nous qui avons besoin de beaucoup de place. Donc ça a pris un petit peu de temps, et puis on a commencé une activité, on va dire, tout début 2015. Début 2015, on a commencé à avoir un local à Saint-Simon et à vraiment collecter beaucoup de déchets et pouvoir avoir un peu d'impact sur tout ce qui est jeté sur la métropole toulousaine, quoi.
Donc, quels sont les différents lieux de collecte ? C'est le bâtiment en général ? Enfin, vous êtes en contact avec des artisans, avec des industries ?
Eh bien, un peu de tout, en fait. En effet, on est en contact avec des artisans, alors que ce soit de l'artisan très, très classique qui nous a connus par bouche à oreille, l'artisan qui n'a pas forcément, on va dire, de conviction écologique à la base, mais qui trouve que c'est intéressant, parce que d'habitude, tout simplement, lui, quand il va jeter ses choses encore utilisable, encore une fois. La plupart du temps, ils payent pour aller les jeter. Donc c'est encore un truc un peu aberrant, mais c'est comme ça. Donc nous, on est là pour récupérer ça sur chantier, essayer de faire en sorte qu'il ait le moins de déplacements à faire, que ce soit nous qui fassions les déplacements. Et donc oui, on a beaucoup d'artisans dans nos contacts, on a des entreprises qui ont des ateliers, mais qui sont pas forcément des entreprises du bâtiment, mais qui peuvent jeter des choses qui sont intéressantes dans le bâtiment. Donc par exemple, des entreprises qui vont faire du transport, mais qui vont fabriquer des boîtes en bois. Ils ont énormément de chutes de bois. Donc voilà, toutes ces chutes de panneaux de bois, nous on les récupère. C'est du panneau qui est neuf, c'est juste une chute de découpe. Voilà. Et ça, d'habitude, ça part à la benne. Donc des artisans, des entreprises, du bâtiment ou pas, et puis du particulier aussi qui commence à nous connaître de plus en plus et qui lui aussi vient vider son garage, vider le fond de son jardin où il y a un tas de tuiles, plutôt que de les jeter, d'aller les mettre à la déchetterie où ça va être enfoui ou incinéré, ça peut resservir. Pourquoi l'évacuer, quoi.
Tu disais les artisans, ils payent pour mettre les déchets à la benne. Peux détailler ça ?
Alors, de manière, soit ils sont sur un chantier, en fait, ils sont sur un chantier, par exemple, où que ce soit, hein, mais ils ont une benne, cette benne, ils la remplissent. À la fin, la benne, il faut qu'elle soit évacuée par le recycleur, et ils payent ce qu'il y a dedans, en fait. En fonction de ce que c'est, hein, c'est pas toujours le même prix. Si c'est du gravat ou si c'est du plastique, évidemment, il va pas payer la même chose. Mais en effet, ils payent pour se faire évacuer ce déchet-là. De même, si c'est lui qui se déplace et qui va dans une déchetterie professionnelle, on va le faire payer pour aller déposer son déchet. Parce qu'il y a un traitement derrière, parce que voilà, c'est logique, comme nous on paye quand on va à la déchetterie, sauf qu'on ne le paye pas directement, on le paye via nos impôts. Ouais. Mais on le paye aussi, la déchetterie, bien sûr. Mm-hmm. Donc voilà.
Et donc au niveau de la genèse du projet, comment ça vous est venu ? C'est quoi vos parcours ? Vous étiez tous les deux dans le bâtiment
ou... Non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre étions dans le bâtiment. Edouard, lui, a fait des études plutôt littéraires. Il avait déjà créé une autre entreprise avant, mais il n'était pas du tout du domaine. Il s'est mis après dans le domaine en arrivant sur Toulouse, c'est-à-dire il a commencé à travailler dans le bâtiment en arrivant sur Toulouse, mais sans formation particulière. Moi, pareil, j'ai fait des études en écologie, en développement durable. J'ai travaillé dans l'informatique après. Et c'est en arrivant à Toulouse et en ayant cette idée-là, on a eu l'idée à peu près au même moment et on s'en rencontré via une association d'amis qui est Bois et Compagnie, que vous allez d'ailleurs rencontrer vendredi, je crois.
Oui,
donc ça tombe bien, voilà, vous les aurez en interview vendredi. On s'est rencontrés grâce à eux, parce qu'on a tous les deux été leur présenter notre projet à quelques semaines d'écart, et donc ils nous ont mis en relation tous les deux à ce moment-là. Voilà.
D'accord. Et du coup, ça s'est
goupillé. Et du coup, ça s'est goupillé, oui, je vais pas dire assez rapidement, mais c'est vrai que une fois qu'on a un peu macéré dans le réseau associatif toulousain, qu'on commence à connaître les réseaux, qui fait quoi, qui peut nous aider sur tel sujet, voilà, c'est venu assez rapidement. Au même moment, on a passé tous les deux une formation en menuiserie. Un CAP en menuiserie pour avoir une petite connaissance métier, comme on dit. Et voilà, un peu plus de reconnaissance aussi du milieu professionnel, quoi. Quand on va leur parler, ils savent qu'on est aussi du milieu, ça aide toujours. Voilà, on a passé cette formation et puis on s'est, nous aussi, en allant sur chantier, on s'est encore plus, là, à ce moment-là, rendu compte de ce qui était jeté, encore une fois, que ce soit sur chantier ou dans les entreprises elles-mêmes, quoi. Des volumes qui sont vraiment des volumes très importants, des tonnages très importants et auxquels le grand public a en fait peu de connaissances, quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup du déchet ménager, on parle beaucoup du déchet électronique, des choses comme ça. Bon, d'accord, très bien, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte des tonnages monstrueux qui peuvent être issus de la construction, de la rénovation, voilà.
Et donc aujourd'hui, à partir de ces déchets, quels sont vos objectifs ?
Alors notre objectif déjà c'est de récupérer le maximum de déchets parce que tout ce qu'on récupère c'est quelque chose qui est évacué du circuit classique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'arrivera pas en déchetterie pour être, comme je le disais, soit incinéré, soit enfoui, ce qui est malheureusement la destination de la plupart des déchets. Le but c'est vraiment ça, de détourner de plus en plus de quantité de donc pas de déchets puisque c'est réutilisable, et de faire en sorte que cette matière elle soit réutilisée de manière... je ne vais pas dire instantané, mais le plus rapidement possible par un particulier qui bricole, en fait, tout simplement.
Donc, du coup, vous avez une boutique.
Donc, du coup, on a une boutique qui était un magasin de matériaux du bâtiment de récup. Sachant qu'il y a du neuf, il y a de l'occasion, il y a du très vieux, il y a du très récent. Pour ne pas les nommer un castot de la récup. C'est vrai que le terme est assez simple à comprendre.
Mais du coup, c'est peut-être moins cher que chez Casto aussi.
Alors oui, sur plein de choses, en effet, on va être moins cher que chez Casto. Si tu vas partir sur un panneau bois très classique, tu vas aller chez Casto pour t'acheter un morceau de bois, un panneau qui fait un mètre par un mètre, oui, tu vas le payer bien sûr plus cher que chez nous. Après, il y a d'autres choses aussi qu'on aura chez nous qui ne seront pas chez Casto, par exemple des vieux volets, des vieilles fenêtres, qui vont servir à être détournés, qui vont plus avoir une destination quasiment esthétique dans la maison que vraiment utilitaire comme un volet ou comme une fenêtre, mais c'est quelque chose qui peut être détourné. Puis de l'autre côté, c'est vrai aussi qu'on a plein de choses qu'ils ont chez Casto qu'on n'a pas chez nous. Bien évidemment, tout ce qui est quincaillerie neuve, des choses comme ça, par exemple, oui, on n'est pas encore très fourni là-dessus, mais ça va venir. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont jetées, on n'a juste pas encore les contacts, mais c'est juste le temps qui est nécessaire pour avoir plus de contacts, et voilà.
Et je crois aussi que vous proposez des créations.
Également, oui, voilà. Alors, notre atelier, on a un atelier, en fait, à coller au magasin en lui-même. On est une association, au cas où je n'avais pas dit depuis le début. On a un atelier donc, qui est ouvert aux adhérents, dans lequel ils peuvent venir bricoler. Ça, c'est la première chose. Donc, ils peuvent, en effet, faire de la création sur place. Et nous-mêmes, on fait aussi de la création sur place, qui a plusieurs buts. Déjà, montrer aux gens ce qu'on peut faire avec de la récup. Alors, il y a tous les sites internet très bien faits là-dessus. Mais c'est vrai que quand on vient en magasin, on se rend aussi plus compte de, ah bah oui, c'est quoi une table basse en récup? C'est quoi un tabouret, un fauteuil? Voilà. Comment on peut la faire. Donc ça, c'est la première chose. C'est vrai que c'est une vitrine pour dire, voilà, vous pouvez faire des jolies choses, vous aussi, avec de la récup. Ça ne demande pas forcément des compétences excessives en termes de bricolage, de menuiserie. Vous avez l'atelier à côté pour pouvoir venir faire vos réalisations sur place si vous n'avez pas les outils. Voilà. C'est vraiment pousser les gens à aller vers l'autoconstruction et l'autorénovation, que ce soit de petits mobiliers, la table de la salle à manger qui s'est cassée ou qui a besoin d'un petit coup de jeûne, comme se refaire sa cuisine complètement avec que de la récup, quoi.
Alors, quelles sont les dernières créations qui t'ont vraiment interpellé ?
Les dernières créations de l'atelier, là, il y a eu quelques créations pour le bar, le fil à plomb. Il y a eu tout le bar du fil à plomb qui a été refait par un de nos adhérents, en fait, donc qui est visible au fil à plomb actuellement. Il est installé depuis un mois. Je crois qu'il y a déjà eu quelques retours positifs dessus. Ça, c'était une des dernières créations. Après, on a des stagiaires qui sont passés, qui ont fait des très jolies chaises également, uniquement à base de palettes et autres, qui sont visibles sur le marché de Noël actuellement. Voilà. Plusieurs créations. Et puis c'est surtout les créations du particulier quand il revient chez nous 15 jours, 3 semaines après nous avoir acheté quelque chose et qu'il nous montre la photo de ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est toujours sympa. On essaye d'en poster le plus sur notre Facebook ou notre site internet parce qu'il y a vraiment des choses vraiment magnifiques qui sont faites. Le client repart avec 3 bouts de planche et un vieux volet et puis il arrive chez lui, il fait quelque chose de magnifique avec. Donc c'est ça qui est. C'est très motivant aussi de voir ça, quoi.
On va faire une petite pause musicale.
No. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. Dans ces temps, on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humain.
Les Cowboys Fringants, plus rien.
Et on retourne dans les studios avec David Muse, qui est un des monteurs de projet de l'association Recyclobat. David, tu peux nous parler un petit peu justement de l'accompagnement des bénévoles?
Alors en effet, chez Recyclo, on accueille assez régulièrement, enfin on est ouvert plutôt au bénévolat, bien sûr, comme tout asso. On a en effet des bénévoles qui viennent assez régulièrement donner un coup de main, donc donner un coup de main que ce soit par exemple sur de la collecte, donc ils ont envie de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui est jeté, comment on fait pour aller récupérer les choses, donc ils partent avec nous par exemple en collecte, ils viennent nous aider sur le magasin, sur de la réalisation par exemple, sur du nettoyage, sur de l'entreposage, du rangement, des choses comme ça. Et donc ça, bien évidemment, on est toujours là pour les guider un peu sur qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a d'urgent, qu'est-ce qu'on peut faire. Après, même sur des tâches de fond, hein, sur aller, c'est pas relancer des entreprises, aller faire du démarchage, voilà. Même sur des tâches de fond, il y a des bénévoles en effet qui peuvent être moteurs. Hein. Et puis de l'autre côté, sur les alors là, c'est pas forcément bénévole, mais c'est plus sur l'adhérent qui vient à l'atelier pour bricoler et sur son encadrement à lui. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas une association comme Bois et Compagnie, pour ne pas les citer encore une fois. Eux font vraiment de la formation au travail du bois. C'est-à-dire que vous allez chez Bois et Compagnie, vous allez pas encore aujourd'hui, mais quasiment arriver à une mini formation professionnelle. Je veux dire que c'est un niveau CAP leur formation, mais presque. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment le travail du bois, reconnaître ses bois, les tracer, voilà. Nous, chez nous, on va pas avoir toute cette partie-là. On va plus se cibler sur les machines. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive chez nous, la plupart du temps avoir quelques connaissances de bricolage, mais il ne va pas forcément savoir se servir des machines qui sont plutôt des machines un peu plus grosses que le machine du particulier. Donc c'est vrai qu'on va l'encadrer sur ça. Déjà, il y aura toute une partie conseil en amont sur sa réalisation. Ah bah tiens, il vient avec son petit plan, voilà, j'ai envie de me faire ça, est-ce que ça c'est bien, est-ce que je devrais fixer ça là, comment est-ce que je fais ça. Donc nous, on l'encadre sur ça, on le conseille là-dessus. Bah tu devrais plutôt faire ça comme ça, tu devrais plutôt prendre telle section. Et puis après, sur la partie vraiment réalisation pure, où il va avoir besoin de telle machine, il ne l'a jamais utilisée, évidemment, il va y avoir un accompagnement sur la première utilisation de la machine pour lui dire, voilà, comment l'utiliser en sécurité, c'est quoi son intérêt à cette machine, qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir en sortie, voilà. Tout cet accompagnement au vraiment à la réalisation sur demande. On ne va pas aller le former sur toutes les machines alors qu'ils vont en utiliser une seule. Voilà.
Oui, c'est le côté pratico-pratique. Il arrive avec un projet. Ça va du début de l'idée à la réalisation.
Exactement.
Et c'est plus vraiment un côté pratique.
Oui, un côté pratique, voilà. Il va vraiment arriver avec son plan et on va passer dans le magasin avec lui en disant, bah voilà, tu vas plutôt prendre ce bois-là ou tu vas faire ça comme ça, qu'est-ce que tu veux en visuel. Quand ils ont besoin d'être encadrés, après on a aussi en effet des adhérents qui arrivent, qui ont déjà leur projet tout bien dessiné, tout bien carré, et puis il y a assez peu besoin de les encadrer. Ça dépend vraiment aussi des compétences de chacun, c'est logique.
Est-ce que les machines que vous avez, c'est des machines professionnelles ?
Il y a une partie des machines, en effet, c'est de la grosse machine plutôt professionnelle, et puis même après sur de l'outillage portatif qu'on peut trouver en magasin de bricolage, voilà, il y a quand même des règles d'utilisation à connaître. Qu'est-ce que je peux faire avec, qu'est-ce que ça va donner à la fin, comment je fais pour l'utiliser sans me faire mal, c'est important aussi.
Et oui. Et justement, tu parlais de Bois et Compagnie, est-ce que donc vous êtes en partenariat avec cette structure? Est-ce qu'il y a d'autres structures associatives avec lesquelles vous travaillez?
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pareil, sur des sujets très très ponctuels, comme sur de la réflexion un peu plus longue, je vais par exemple parler de Partageons les Jardins, donc qui fait, cette association qui promeut le jardinage en milieu urbain, que ce soit avec des HLM, avec une installation donc, de jardins dans des HLM, des résidences, des entreprises. Donc ça, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec eux, parce qu'on leur fournit du bois pour faire leur jardinière et autres, hein, aménagement de jardin d'une manière générale, Partageons les Jardins, à croquer, Terre au Ciel, voilà, il y en a un paquet. C'est vrai que c'est surtout des associations qui sont soit autour du jardinage ou de l'agroécologie ou un petit peu, on va dire aussi, un petit peu du côté théâtre et animation aussi, où on a pas mal de troupes de théâtre et de choses comme ça qui viennent pour faire du décor, en fait, du décor de spectacle, là aussi, à moindre coût. Et puis un peu original aussi, et puis la possibilité de faire son décor sur place, comme tu as pu voir par exemple sur le marché de Noël, organisé par une autre association alternative, où là toute la décoration du marché de Noël a été faite dans notre atelier par les bénévoles de l'association alternative. Donc ils avaient un lieu pour pouvoir, ils ont mis un mois et demi à les faire les décorations, donc pour pouvoir revenir travailler de temps en temps dessus, en étant avec de la place et des outils quoi.
Un lieu de stockage.
Voilà.
Sur le marché de Noël, vous partagez aussi votre stand avec Jeux de Main ?
Tout à fait, on partage notre stand avec Jeux de Main, qui est encore une autre association avec qui on bosse, donc eux encore plus près, puisqu'ils sont dans le même local que nous. Jeux de Main qui fabrique donc des jeux en bois et uniquement du bois de récup également. Que des jeux de plateau, des jeux de stratégie, des jeux très originaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors il y a aussi des trucs un peu plus classiques, le billard hollandais, des choses comme ça. Mais il y a aussi des jeux qui sont de la pure invention et de la pure production. Justement, un de nos stagiaires qui est passé il y a un mois a inventé un jeu. Le Martin Game, il s'appelait Martin, c'est Martin Game. Voilà.
Et du coup, vous leur refilez du bois, enfin, c'est bien.
Voilà, c'est ça. C'est un échange sur un partenariat sur donc cette structure Jeu de Main qui a, elle, besoin de bois à pas cher et de bois de récup de bonne qualité. Et il se trouve que voilà, elle a son atelier à 10 mètres de son stock de bois en étant chez nous. Quoi.
Ouais.
Voilà.
Jeu de Main qu'on va recevoir aussi vendredi.
Vendredi.
Avec Bois et Compagnie.
Une semaine consacrée au réemploi,
à la récup. On pourrait faire 3 semaines dessus.
Et Johan posait une question tout à fait juste tout à l'heure. Vous êtes une des premières structures à avoir initié ce concept ?
Alors, à notre connaissance en France, oui, en effet. Ou en tout cas, de s'être spécialisé sur le matériau du bâtiment, oui. Alors en effet, parce qu'il y a d'autres ressourceries ou d'autres structures qui font un petit peu de matériaux du bâtiment, par exemple Emmaüs, hein, qui est la plus connue. Oui, ils vendent des portes et des tuiles et des lavabos de temps en temps, en effet, quand ils en ont, mais qui est une structure entièrement spécialisée sur le matériau. En effet, on a été la première en France à se créer. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on a une volonté que ça s'essaie, et que ça se multiplie. Et on a beaucoup de demandes, là, depuis un an, beaucoup de demandes de personnes qui est des quatre coins de la France, vraiment, qui nous appellent pour avoir des connaissances sur comment on a fait, c'est quoi le fil, comment on vend, qu'est-ce qu'on vend, comment on récupère, voilà. Autant, comme je disais, autant de l'étudiant en fin d'études que de la personne qui a vraiment envie de monter un projet, qui a déjà un collectif, un peu de tous les profils, mais c'est vrai qu'on a eu voilà, des gens de Bordeaux, de Nantes, de Paris, beaucoup de villes de France où ces gens-là nous appellent pour savoir voilà, comment on a fait et quelles sont les difficultés surtout. C'est quand même ça le plus important. Voilà, donc je pense qu'il y a à peu près toutes les chances pour que dans les années à venir, il y ait beaucoup d'autres, alors pas Recyclobat, mais beaucoup d'autres structures qui s'intéressent comme ça au réemploi dans le monde du bâtiment, quoi.
Et justement, tu parles des difficultés. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au cours du montage de votre projet depuis votre rencontre en 2012 jusqu'à aujourd'hui où vous avez vraiment une structure avec un accueil à la fois d'adhérents et une boutique. J'imagine que toutes ces étapes...
Ouais. Alors on a essayé de les faire, on va dire, d'une manière assez originale par rapport à ce qui est fait d'habitude. C'est-à-dire que souvent, quand on veut créer comme ça... un projet qui a quand même un peu de poids dans le sens où il va falloir de la place, il va falloir des moyens de manutention, il va falloir pas mal de bras, etc. Souvent, on fait plein de rencontres avec plein d'élus pendant des années, on monte des dossiers, des machins, des trucs. Bon, on l'a fait un petit peu au début, et puis au bout de 2 ans, on a commencé à en avoir un petit peu marre de tourner en rond dans notre coin, parce que des rencontres avec des gens qui vous disent que votre projet est génial, on en a fait beaucoup. Mais alors de là à avoir une vraie aide derrière, c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'y aller par petits pas, tout simplement. Donc le plus difficile, clairement, au tout début, a été de trouver un local. Jeune association, pas de salariés, pas d'activité, va trouver un local à louer. Bah c'est pas évident. C'est pas évident du tout, donc surtout quand t'as besoin d'un petit peu de place. Donc on y a été vraiment, au fur et à mesure, en passant par un propriétaire, en lui louant son local, puis en prenant un deuxième local derrière, et puis là on vient de déménager, mais c'est vrai que clairement le bâtiment en lui-même c'est la plus grosse difficulté, quoi. S'acheter un camion à quelques petits milliers d'euros pour faire des collectes, c'est encore faisable. Travailler bénévolement, c'est toujours faisable. Mais avoir un local pour stocker, bah, il faut bien payer son loyer quand même. Donc là, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien vous louer son local. Donc c'est ça la plus grosse difficulté, je dirais.
Oui, puis en milieu urbain. Où l'espace a un sacré prix.
Exactement. En région toulousaine, bah, c'est quand même le local industriel, comme on a le hangar, coûte quand même un prix non négligeable au mètre carré. Ça a été ça la plus grosse difficulté. Aujourd'hui, c'est clair que dans notre activité, le local est un poids vraiment, vraiment considérable dans les chiffres. Mais on ne pouvait pas trop faire autrement, quoi. À part aller s'expatrier à 100 km de Toulouse. Mais sinon, ça n'aurait pas forcément été une très bonne initiation. On essaye de privilégier aussi quand même le circuit court, c'est-à-dire qu'on ne va collecter que sur Toulouse et que la plupart de nos clients sont quand même des gens de la région toulousaine ou assez proches, quoi. Bon, ça a peu de sens de faire des centaines de kilomètres pour trimballer du déchet, donc on n'a pas pris ce fil-là non plus, quoi. Et puis il y a une vraie activité à Toulouse, il y a une vraie activité de construction, de rénovation. Bon. Il fallait être en région toulousaine, mais c'est sûr que oui, le loyer, ça coûte très cher.
Puisqu'on parle du bâtiment, on va citer votre adresse.
Alors c'est donc aux 4 rue Henriot, c'est zone de Thibault, à Toulouse. Voilà, 4 rue Henriot, il y a à peu près des panneaux partout.
Bon, voilà. Comme ça, on peut vous trouver facilement.
Tout à fait. Et puis, bien évidemment, il y a tous les contacts sur le site internet recyclobat.fr ou sur le Facebook.
Merci beaucoup, David, d'être venu dans les studios de Canal Sud.
Merci à vous.
On souhaite qu'il y ait de nombreux projets en recyclage qui sortent de vos ateliers.
De même.